Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Priez pour nous. Saint Joseph.
Priez pour nous.
Saint Pédis.
Priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola.
Priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin.
Priez pour nous.
Saint Jérôme,
au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettez le chat dehors, là, si vous gênez.
Il est chez lui, là.
Bon, alors, on en est à la... presque à la... Allez, à chapitre 7 de Saint Matthieu, au verset 7, donc à la page 12 sur le deuxième polycopié de Saint Matthieu. Le premier polycopié c'était chapitre 1 à 5, deuxième polycopié chapitre 6 à 10, donc page 12. Là on trouve une des phrases les plus importantes qu'on utilise tout le temps pour expliquer justement le rôle de la prière. Demandez et il vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et on ouvrira celui qui frappe. Évidemment il y a une phrase qui est sous-entendue, ça veut dire que celui qui ne demande pas, celui qui ne cherche pas, celui qui ne frappe pas, eh bien, il ne sera pas donné, il ne trouvera pas, on n'ouvrira pas la porte pour lui. Bon, une deuxième phrase qui est très connue aussi, qu'on utilise aussi pour expliquer le rôle de la prière, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Bon, j'ai déjà expliqué, j'en ai parlé aussi, je crois que c'était dimanche dernier, au sermon de la messe. Donc, il faut comprendre que les fins de la prière, c'est-à-dire le but de la prière, les fins de la prière et les fins de la messe sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que la prière et la sainte messe est la prière par excellence. Donc je rappelle les quatre fins de la messe qui sont en même temps les quatre fins de la prière. Donc fin eucharistique, c'est la fin d'action de grâce. Fin latrutique, c'est la fin d'adoration. Fin impétratoire pour demander les grâces dont on a besoin. Et la fin propitiatoire, la plus importante, qui est la fin de réparation. Donc on prie pour demander les grâces, on prie en marque d'adoration, on prie pour rendre grâce au bon Dieu des grâces reçues et on prie surtout pour réparer nos péchés. Donc ainsi on répond déjà à une objection qu'on entend beaucoup trop souvent de gens qui me disent « Monsieur l'abbé, moi je ne prie plus parce que je ne suis plus en état de grâce depuis longtemps. » La meilleure façon de retrouver l'état de grâce, c'est de commencer par prier. Donc s'il fallait s'arrêter de prier parce qu'on est en état de péché, ben, on ne prierait plus beaucoup. C'est évident que c'est surtout... quand on est en état de péché, qu'il faut prier. Le fait que l'on soit en état de péché n'empêche pas la prière. Le bon Dieu est plein de miséricorde. L'exemple typique, c'est l'exemple du pharisien et du publicain qui tous les deux se présentent à la porte du temple. On peut croire que le publicain n'était pas en état de grâce. Il retrouve l'état de grâce, justement en priant. Donc il faut demander par ces prières. Alors parfois Dieu diffère de nous exaucer, donc c'est au polycopié page 12, l'enseignement des pères. Dieu diffère de nous exaucer si ce n'est pas qu'il nous refuse ses dons. Il veut simplement relever le prix. Parce que les pères font une remarque intéressante, ils disent « Les choses que nous avons longtemps désirées ont pour nous bien plus de douceur lorsque nous les obtenons. Si elles nous sont données aussitôt, elles perdent pour nous de leur prix. » Donc parfois, le bon Dieu nous fait attendre, soit parce qu'on demande mal, soit parce qu'on demande des choses qu'il ne faut pas demander, soit parce que le bon Dieu pense qu'il est préférable pour notre vie spirituelle de ne pas être exaucé tout de suite. Soit, et c'est aussi très souvent le cas, parce que les grâces du bon Dieu sont conditionnelles. Que le bon Dieu a décidé de nous donner telle grâce, mais à condition qu'on fasse telle chose pour nous amener à cette grâce. Ça peut être une occasion de péché à supprimer, ça peut être un acte de charité particulier à faire avec telle personne, et bon Dieu a décidé que si je faisais tel acte de charité, eh bien, il me donnerait les grâces pour autre chose. Donc, vous avez donc les points les plus importants ici, qui sont résumés dans le verset 7 du chapitre 7 de Saint Matthieu: demander, chercher, frapper. Donc demander, c'est la foi. Demander signifie, disent les pères, qu'il faut la confiance dans la prière, qui est une condition requise. Il faut demander la force, la supplication en priant nuit et jour pour pouvoir remplir les commandements de Dieu. C'est la foi que donne l'effort persévérant. Donc, on demande, le fait qu'on demande à Dieu prouve qu'on a la foi. Si on n'est pas la foi, on n'aurait rien du tout. On n'aurait pas à Dieu si on n'est pas la foi. Si on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés, c'est qu'on donne à Dieu le pouvoir de nous pardonner les péchés. Donc on croit qu'il est Dieu et qu'il a donc, en tant que Dieu, le pouvoir de nous pardonner les péchés. Le deuxième point, c'est chercher. Chercher, vous trouverez, ça c'est la vertu d'espérance. Pourquoi? Parce que la recherche implique zèle et diligence. Car celui qui cherche quelque chose applique la pleine vigueur de son esprit pour obtenir ce qu'il cherche, à savoir d'abord la vérité. Donc il faut du zèle et une vie sainte, car le paradis n'est pas donné aux paresseux. C'est l'espérance puisée dans l'obéissance. Donc demander correspond à la foi, chercher correspond à l'espérance. Donc je cherche les lumières du paradis parce que j'espère y aller. Et de même qu'on ne peut pas demander si on n'a pas la foi, on ne peut pas chercher sans avoir l'espérance d'obtenir ce qu'on cherche. Enfin, frapper, demander, chercher, frapper, ça regarde la persévérance. La persévérance pour que la porte du ciel nous soit ouverte par la prière, le jeûne et l'aumône. C'est la charité obtenue par la patience dans les épreuves. Donc le bon Dieu, traditionnellement, donne ses grâces à ceux qui utilisent les trois moyens les plus courants, les plus habituels pour obtenir ces grâces. Les trois moyens des anciens pères qui étaient très importants au Moyen-Âge et même dans les premiers siècles de l'Église sont un peu oubliés aujourd'hui. Donc les trois moyens, la prière, le jeûne et l'aumône. Donc pourquoi ces trois-là? J'ai expliqué plusieurs fois, je réexplique rapidement ceux qui ont oublié. Ces trois choses, prière, jeûne et aumône, correspondent à la lutte contre les trois concupiscences. Donc, contre la concupiscence de la chair, c'est le jeûne. Contre la concupiscence des yeux, c'est l'aumône. Et contre la concupiscence de l'orgueil, c'est la prière. Donc, la prière va correspondre à la lutte contre l'orgueil. Le jeûne correspond à la lutte contre la concupiscence de la chair, donc les tentations d'impureté. Et l'aumône correspond à la lutte contre la concupiscence des yeux, des yeux de tout avoir. Donc, ainsi, le troisième point, donc. Si demander correspond à la foi, chercher correspond à l'espérance, et frapper correspond à la persévérance, et la persévérance va amener la charité. Donc frapper correspond à la charité. C'est la charité obtenue par la patience dans les épreuves. Donc on retrouve là les trois vertus théologales: foi, espérance, charité. On demande la foi, on cherche pour l'espérance, on frappe pour la charité. Alors la lecture, disent les pères, offre une solide nourriture pour la bouche, la méditation la mastique, la raison lui donne sa saveur, la contemplation, la douceur même qui plaît, qui rafraîchit. C'est une phrase magnifique des pères. Le père Bariel, le vieux père qui m'a appris à prêcher ces exercices au séminaire, il nous disait qu'il fallait être des vaches spirituelles. C'est une expression qu'il avait. J'aimais bien parce qu'il disait bien, ça explique bien ce que ça veut dire. Une vache spirituelle, il disait la vache, j'ai expliqué ça souvent, mais la vache, elle broute de l'herbe. Elle avale de l'herbe, elle remplit son estomac d'herbe, puis après, une fois qu'elle a suffisamment mangé, elle s'arrête de brouter. On a l'impression qu'elle s'arrête, qu'elle a terminé. Non, c'est pas terminé. Elle va ruminer, donc reprendre le contenu de l'estomac pour le mâcher de nouveau, littéralement. Eh bien, le Père Bayet nous disait, le catholique, le séminariste amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ doit être comme une vache. Et on broute justement, on broute l'herbe par les cours qu'on nous donnait, les cours de théologie, les cours de philosophie, les cours de spiritualité qu'on avait. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans la chapelle ou dans notre cellule, il fallait ruminer les vérités qu'on nous avait données. Et pas se contenter de les apprendre par cœur, il faut les méditer, pour savoir après comment, je dirais, les adapter aux circonstances de chaque jour. Ça, c'est très très important, à mon avis, pour un prêtre. Et c'est dommage parce que, à mon avis, beaucoup de prêtres n'ont pas compris ça au niveau de la prédication. Ça se sent tout de suite parce que on sent Beaucoup de prêtres commencent à travailler leur sermon. Enfin, je ne vais pas juger, mais c'est une chose que j'ai constatée. Beaucoup de prêtres commencent à travailler leur sermon pour le dimanche, le samedi soir et l'en dehors du soir. Alors, ils se dépêchent de prendre quelques notes sur un sermonnaire. Ils n'ont absolument pas le temps de le méditer. Donc, ils donnent quelque chose qu'ils n'ont pas médité. Donc, c'est comme une vache, si vous voulez, qui n'a pas eu le temps de ruminer. Ben, l'herbe ne va pas la nourrir. Et c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre avait des sermons tellement intéressants, parce que lui, il les méditait, vous avez dit, il méditait ses sermons. Je pense que c'est quelque chose de très important. Méditer ses sermons pour un prêtre, pour avoir le temps de les préparer, pour avoir arriver à en saisir, si vous voulez, la moelle, pour pouvoir le donner aux fidèles. Il ne faut pas oublier que le rôle du prêtre, c'est de transférer. Il ne peut pas transférer quelque chose qu'il n'a pas. Et donc, s'il est évident que s'il veut méditer son sermon, mais il ne s'agit pas de préparer son sermon le samedi soir pour le lendemain matin, il n'a pas le temps de le méditer. Et donc, je pense que c'est indispensable, à mon avis. Moi, je conseille toujours ça aux jeunes prêtres, de choisir le dimanche soir déjà le sujet de son sermon du dimanche suivant, donc une semaine à l'avance. Comme ça vous donne toute la semaine pour méditer sur ses sermons. Et avoir le temps de ruminer spirituellement ce qu'on peut trouver dans le sermon, et à ce moment donner quelque chose qui soit capable d'être apprécié par les gens. Sinon, on donne des sermons qui sont qui sont trop artificiels, et on sent que le prêtre ne les a pas médités, et donc comme il ne les a pas médités, il n'est pas capable d'en donner la moelle spécifique. Et moi, ça m'a beaucoup frappé chez Monseigneur Lefebvre, la façon dont il prêchait. Monseigneur avait un don pour simplifier les choses compliquées. Il y a malheureusement des prêtres qui ont un don inverse de compliquer les choses simples. Mais Monseigneur, c'était simplifier les choses compliquées. Et il donnait des sermons de telle façon que même sur des sujets assez élevés, un enfant de 5 ans est capable de comprendre le sermon. Et dans la somme morale de Saint Alphonse de Ligorie, il insiste aussi beaucoup là-dessus, avec raison, parce que de son siècle, c'était le 17e. 17e siècle, c'était la coutume de donner des sermons avec un style fleuri de l'époque, un peu grandiloquent, quoi, le style de Bourdaloue, le style de Bossuet, etc. Et la plupart des gens des gens simples, Saint Alphonse de Ligorie, le fondateur des rédemptoristes, prêchait dans les milieux assez simples en Italie. Et il avait interdit à ses prêtres de prendre ce style qui était pourtant le style habituel de l'époque. Il l'interdisait, et quand dans son séminaire, parce qu'il était évêque, évêque à Sainte-Agathe des Gouttes, donc quand il était évêque, il écoutait donc les sermons donnés par ces jeunes diacres ou ces jeunes prêtres, et quand il entendait qu'un de ces jeunes prêtres ou un de ces diacres commençait à prendre le style fleuri de l'époque, il le faisait descendre immédiatement de chair et posait sa place. Il donnait le sermon à la place du prêtre, parce qu'il ne voulait pas que ces prêtres donnent des sermons dans le style académique de l'époque. Bon, j'ai rien contre ces sermons. Si vous lisez un sermon de Bossuet, un sermon de Bourdaloue, c'est magnifique, c'est du très beau français. Mais le problème, c'est que si un prêtre prêche avec le même langage, eh bien, il aura beaucoup de mal à se faire comprendre, parce que malheureusement, il y a une énorme différence de vie spirituelle entre la vie spirituelle des gens du temps de Bourdaloue ou du temps même de Bossuet et la vie spirituelle des gens de notre époque. En plus, il y a une évolution régressive, c'est-à-dire que les gens de notre époque sont bien plus bêtes que les gens du temps de Bourdaloue ou du temps de Bossuet, et que les gens du peuple du temps de Bossuet et du temps de Bourdaloue étaient nettement plus intelligents que les gens de notre temps, et donc ils étaient peut-être capables de comprendre ces choses-là, mais plus nous. On n'est plus capable. Et quand on prêche comme ça, ben, ça passe complètement au-dessus. Et donc, faire attention à ça et voir. Quand Saint Matthieu dit demander, chercher et frapper, c'est le symbole de la méditation. Les pères avaient une belle formule, ils disaient la lecture recherche, la méditation trouve, la contemplation nourrit, la prière demande. Dernière ligne de la page 12. Donc la méditation est une action studieuse de l'esprit qui, sous la guidance de la droite raison, recherche la connaissance de la vérité cachée. Donc la méditation, pour ceux qui ont fait des exercices saintiens, ils savent tout ça, la méditation, si vous voulez, on survole un sujet, on exerce la mémoire, l'intelligence et la volonté. Mémoire pour se rappeler ce que le prédicateur a expliqué, intelligence pour comprendre et volonté pour tout regrouper au pied de notre Seigneur. La contemplation, au contraire, c'est un peu plus élevé, c'est une élévation de l'esprit vers Dieu, goûtant les joies de la douceur éternelle. Donc la contemplation, elle est déjà en vie en principe, en vie illuminative ou en vie unitive. La contemplation, c'est autre chose. Une contemplation, c'est une On se met aux pieds de notre Seigneur, aux pieds de notre Sainte Vierge Marie, aux pieds des apôtres. On regarde un passage de la vie de notre Seigneur, la vie des apôtres, la vie de Notre-Dame, et on regarde les personnes, les paroles, les actions. Et qu'est-ce qui est là, les personnes, qu'est-ce qu'ils disent, les paroles, qu'est-ce qu'ils font, les actions. D'accord ? Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que la prière, c'est quelque chose qui doit être médité. C'est pas du tout quelque chose qui doit être survolé rapidement. C'est la raison pour laquelle des gens ont tellement de mal à prier. Moi, je vois très bien quand je prêche ces exercices, au début des exercices, les gens ont un mal fou à contempler et à méditer, même tout simplement parce qu'ils l'ont jamais fait. Ils savent pas méditer. Ils sont habitués à dire certaines prières un peu comme des machines, un peu de façon vocale, répétitive, mais ils sont pas capables d'aller au fond de la prière. Et donc il faut donc demander, chercher, frapper, demander. Donc il faut exercer les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi par la demande, l'espérance par la recherche et la charité par le fait qu'on frappe à la porte du Sacré-Cœur. D'accord ? Donc il faut un peu tout, quoi. Il faut à la fois la lecture, la méditation, la contemplation, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle la prière. Alors, on passe à la page 13 sur le polycopier. Page 13, versets 9, 10 et 11 de Saint Matthieu, chapitre 7. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui présentera une pierre? Ou si on lui demande un poisson, lui présentera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui lui demandent? Et on retrouve la même idée, c'est qu'il faut demander. Il y a des phrases magnifiques des pères. Des pères, de peur que le pécheur, en mesurant la distance qui sépare l'homme de Dieu et en pesant l'énormité de ses péchés, n'en vint à perdre tout espoir d'être exaucé et à renoncer à la prière, le Christ apporte cette comparaison d'un père et de ses enfants, afin que la considération de la bonté paternelle fasse renaître en nous l'espérance que ses péchés, nos péchés, y détruisent. Ça, c'est l'histoire du publicain à la porte du temple. Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur, c'est tout. Pardonnez-moi parce que je suis un pécheur. Non, sous cette figure, c'est intéressant de voir ce que les pères disent. D'ailleurs, le mot pain, le mot poisson, cette figure du pain et du poisson, le Sauveur nous apprend quelles sont les choses que nous devons demander. Donc, de même qu'un enfant qui a faim va demander du pain pour nourrir son corps, du poisson pour nourrir son corps, de la même façon, quelqu'un qui a une âme qui est en mauvais état va demander une nourriture spirituelle qui est représentée par ce pain, ce poisson. Donc, il faut demander un pain spirituel et un poisson spirituel. Donc, les pères, ici, j'ai choisi quelques passages qui expliquent justement l'interprétation des pères. Ils ne disent pas tous les mêmes choses, mais c'est intéressant. Le pain, c'est le verbe de Dieu qui nous donne la connaissance du Père. La pierre, au contraire, qui est présentée par le mauvais père, qui au lieu de donner du pain donne une pierre, la pierre, c'est tout mensonge qui devient pour l'âme une pierre de scandale. On va buter sur la pierre de scandale, et au lieu de pousser le prochain à aller vers le bon Dieu, on va pousser le prochain à dégringoler. Alors là, il y a un texte de Saint Rémy. Nous pouvons voir aussi dans le poisson toute parole qui a rapport au Christ, donc c'est la même chose, le verbe, et dans le serpent, le démon lui-même. Le démon présenté par le serpent, rappelez-vous, le serpent qui a trompé Ève. Ou bien par le pain, on peut entendre la doctrine spirituelle, et par la pierre, l'ignorance. Par le poisson, l'eau du Saint-Baptême. Pourquoi ? Parce que l'eau du Saint-Baptême, parce que le poisson nage dans l'eau. Donc l'eau du baptême représente justement cette vertu des... représente le sacrement, qui nous ouvre les portes de la grâce. Et par le serpent, au contraire, la fourberie du démon ou l'infidélité. Donc là, le pain... et le poisson représente la fidélité, la pierre et le serpent représentent l'infidélité. Alors, et d'autres pères, avant mort, un autre père qui disait, par le pain, qui est la nourriture commune à tous les hommes, on peut entendre la charité, sans laquelle les autres vertus n'ont aucun prix. Le poisson signifie la foi. Une petite variante dans l'explication des pères, signifie la foi qui, née de l'eau du baptême, parce que le poisson nage dans l'eau, se trouve ballottée par les flots de ce monde au milieu duquel elle ne laisse pas de vivre. Saint Luc ajoute une troisième figure, donc ça c'est dans un autre évangile parallèle à celui-là. En Saint Luc, il parle aussi non seulement du poisson et du pain, mais aussi de l'œuf. De l'œuf, alors c'est intéressant de voir que chez les pères, l'œuf c'est le symbole de l'espérance. Pourquoi ? Parce que l'œuf quelque chose qui semble inerte, mais qui donne la vie. Et donc c'est le symbole de l'espérance qui nous fait, ici disent les pères, l'œuf qui est espérance de l'animal qui doit en sortir et qui est ici le symbole de l'espérance chrétienne. Donc l'image de l'œuf a toujours représenté l'image de l'espérance. Et alors, les pères vont opposer donc à ces trois choses dont parle l'évangile ici, la pierre, le venin du serpent, le scorpion, donc les trois choses négatives, la pierre, le serpent, le scorpion. Vous prenez le texte qui est juste au-dessus. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui présentera une pierre, première chose négative, ou s'il lui demande un poisson, lui présentera un serpent. Bon. Dans d'autres textes parallèles, il parle aussi d'une troisième chose négative, à savoir le scorpion. Bon. À ces trois choses négatives, pierre, serpent, scorpion, les pères opposent les trois vertus théologales. Charité qui s'oppose à la pierre, foi qui s'oppose au serpent, plus exactement au venin de la perfidie, et l'espérance qui s'oppose au scorpion. Pourquoi ? Parce que le scorpion est le symbole du désespoir. Bon, pour deux raisons. D'abord parce qu'il blesse par derrière, il a un aiguillon par derrière, si vous voulez, qui blesse par derrière, dans l'obscurité. Et aussi parce que le scorpion... les anciens savaient que le scorpion est un animal, c'est pas un animal, c'est un insecte, c'est pas une morbule, la catégorie dans laquelle on est classé. Bon, c'est un insecte qui pêche facilement contre la vertu d'espérance chez les pères, parce que il est dit que le scorpion se suicide. Je me rappelle quand j'étais gamin au Maroc, grande dame de mes parents, avec mon frère, de temps en temps, quand on arrivait, on savait que les petits musulmans faisaient ça, ils attrapaient des scorpions, et puis ils les mettaient par terre, et ils mettaient le feu tout autour du scorpion, et le scorpion, voyant le feu, voyant qu'il ne pouvait pas sortir vivant du feu, se piquait lui-même, se suicidait. Et donc, le scorpion est le symbole du désespoir chez les pères, à cause de ça. Donc je pense qu'il faut bien méditer là-dessus, quoi. La charité s'oppose à la dureté et à la haine, symbolisée par la pierre. Quoi, la charité, c'est ce qui s'oppose le plus justement à la dureté et à la haine, c'est l'amour. La foi s'oppose à la perfidie, et la perfidie, c'est symbolisé par le venin du serpent. Donc la foi s'oppose au serpent, et l'espérance au scorpion, parce que le scorpion est le symbole du désespoir. Et donc, le résumé, c'est la charité s'oppose à la dureté et à la haine, la foi s'oppose à la perfidie, l'espérance s'oppose au désespoir. Alors, si nous demandons à Dieu, disent les pères, le pain, c'est-à-dire la doctrine ou la charité, nous n'avons pas à craindre qu'il permette jamais que notre cœur se resserre, ou par la froideur qu'engendrent les haines, ou par la dureté de l'âme. Si nous lui demandons la foi, il ne laissera pas périr victime du poison de l'incrédulité. Donc il faut demander ces trois choses, demander la foi, l'espérance et la charité. Donc les trois choses à demander quand on prie, demander la foi, l'espérance et la charité, un peu comme les anciens, on voit ça dans l'évangile. Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. Seigneur, j'espère en vous, mais augmentez mon espérance. Seigneur, je vous aime, mais augmentez en moi la charité. Donc il faut demander trois choses. La foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance comme les moyens qui amènent à la charité. Et la charité, c'est l'état de grâce. Donc il faut demander la charité. Verset 12. Chapitre 7 de Saint Matthieu, verset 12. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même. Car c'est là la loi et les prophètes. Alors, si vous groupez 12, 13 et 14, ils vont ensemble. Entrez donc, là vous avez un texte magnifique. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par elle. Qu'étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, qu'il y en a peu qui la trouvent. C'est des passages extrêmement importants. Quand vous citez des passages comme ça aux modernistes, ils attrapent un bouton sur le bout du nez immédiatement, parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces textes. Ils disent que ces textes sont beaucoup trop durs. Donc on voit très bien là tout ce qui est expliqué par ces textes, Et mon Dieu est dit justement deux mots très forts. Donc c'est la porte qui mène au paradis ou la porte qui mène à l'enfer. La porte qui mène au paradis est étroite, donc il y a peu de personnes qui la prennent. La porte qui mène à l'enfer, c'est la porte de la porte qui mène à l'enfer, pardon, c'est la voie de la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ici nous dit clairement qu'il y a le plus grand nombre qui prend la porte qui mène à l'enfer, ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Et tous les pères de l'Église, tous, sans exception aucune, ont tous prêché le petit nombre relatif des élus. Ça, c'est une chose qui est complètement niée par les modernes. Donc le petit nombre relatif des élus, le mot important, c'est relatif. C'est-à-dire, le nombre des élus est en soi très grand, mais le nombre des élus est aussi petit en comparaison avec le nombre des gens qui se donnent. Alors, vous avez certains saints, certains docteurs qui disent, et je pense qu'ils ont raison, ils disent, lorsque on vivait dans des siècles où l'évangile était prêché par les gouvernants, dans les pays dans lesquels il y avait l'union de l'Église et de l'État, entre autres, par exemple, au Moyen-Âge chrétien, où il y avait des prêtres partout, il y avait un Saint-Louis comme roi de France, vous avez des saints qui prêchaient partout. Il disait, quand le monde était soumis à l'évangile, la plupart des gens se sauvaient. Mais qu'actuellement, on vit dans un monde maintenant malheureusement complètement athée, la plupart des gens se damnent. Bon, maintenant, on ne peut pas donner de nom, c'est certain, on n'a pas le droit de dire, telle personne va en enfer, telle personne va être au ciel, ça on peut pas, on n'a pas le droit. Sauf, on est certain que sont au ciel tous les gens qui sont canonisés par l'Église, par la véritable Église. Pourquoi? Parce que le pape est infaillible dans sa canonisation. Donc si aujourd'hui on fête Saint Ignace de Loyola, il est certain de foi que Saint Ignace de Loyola est au ciel. Bon. Au niveau des gens qui sont en enfer, l'Église n'en met que deux de façon certaine. Caïn, parce qu'il a tué son frère Abel, et Judas, parce qu'il a trahi son notre Seigneur à cause de la phrase terrible de notre Seigneur sur Judas, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. C'est tout. Hein? Qui? Oui, on peut rajouter, oui, c'est certainement, mais à ma connaissance, il n'y a pas de texte de l'Église sur ce sujet. C'est sûr que le mauvais larron, c'était mal parti. Bon. Encore une fois, rappelez-vous la phrase de Saint-Curélas, entre le pont et l'eau, le bon Dieu a obtenu pour telle personne qui s'était suicidée en sautant du pont de la Guillotière à Lyon, la grâce d'un acte de contrition parfaite. Oui. Donc, on voit très bien dans ces textes, donc il faut mettre les textes en parallèle, d'accord? On voit très bien qu'il y a trois choses qui mènent à la perdition et trois choses qui mènent au salut. Donc, les trois choses qui mènent à la perdition sont les trois concupiscences. Donc la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et la concupiscence de l'orgueil. Et les trois choses qui mènent au ciel. Ce sont les trois moyens utilisés par l'Église pour lutter contre ces trois concupiscences, à savoir le jeûne, l'aumône et la prière. Donc, il y a trois amours qui vous correspondent aux trois amours négatifs, l'amour de la nourriture, l'amour de la chair, l'amour du sommeil. Et contre ces trois amours, eh bien, les pères vont parler du jeûne pour lutter contre la tentation de trop manger, la chasteté pour lutter contre les tentations de la chair, et l'éveil pour lutter contre les tentations de sommeil. Avec le sommeil, c'est le symbole de toute la paresse, quoi. Et donc on peut faire, si vous voulez, une comparaison entre la voie large, qui est la voie de la nourriture, la voie de la chair, la voie du sommeil, et la voie étroite, qui mène à la vie éternelle, le jeûne, l'aumône et la prière. Alors, là, il y a des textes, c'est un texte important, en bas de la page 13. Il y a en effet trois inclinations, disent les pères, qui tiennent plus particulièrement à notre nature, ce que je viens d'expliquer, et qui sont étroitement unies à notre corps. La première est celle du boire et du manger, la seconde, l'affection de l'homme pour la femme, et la troisième, l'amour du sommeil. Alors, ces trois inclinations sont plus difficiles à retrancher dans notre nature que toutes les autres passions. Aussi, la mortification d'aucune passion ne sanctifie autant le corps de l'homme comme d'être chaste pour lutter contre les tentations de la chair, de jeûner pour lutter contre la tentation de trop manger, trop boire, et persévérer dans l'éveil pour lutter contre la tentation de la paresse. Notre Seigneur a donc en vue ces trois actes de vertu, en particulier le jeûne si rigoureux, lorsqu'il dit « entrez par la voie étroite ». Donc ça, c'est un texte très important, parce que c'est le texte qu'on utilise en général pour expliquer que l'Église catholique a toujours prêché à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Attention, le mot important, le mot relatif, on n'a jamais dit, et l'Église n'a jamais enseigné, qu'il y avait très peu de gens qui allaient au ciel. L'Église enseigne, à la suite des textes de notre Seigneur, et d'autres textes comme ça qu'on verra plus tard, il y a des textes où notre Seigneur Jésus-Christ dit nombreux sont beaucoup sont appelés, peu sont élus. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Moi, j'aime aussi dire une chose pareille. Le bon Dieu dit lui-même, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il parle beaucoup et peu, c'est comme ça. Donc, il y a plus de gens qui ratent la porte que de gens qui passent par la porte. Bon. Et donc là, avec ce texte-là, notre Seigneur Jésus-Christ utilise aussi les deux mots, beaucoup et peu. C'est comme ça. Alors, j'ai retrouvé là le livre. Il y a un excellent livre qui est un grand classique que je conseille beaucoup à tous les gens qui ont du mal, parce qu'il y a beaucoup de modernistes ou des gens qui viennent du modernisme qui ont un mal fou avec ces passages-là, en disant mais c'est pas possible, comprenez, le bon Dieu est amour, donc tout le monde se sauve, et puis de toute façon quand on meurt, on va avoir une vision de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous attire dans son Sacré-Cœur et tout le monde va sauter dans ses bras. Mais c'est pas du tout ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, les textes sont clairs, le petit nombre relatif des élus, beaucoup se prennent la voie large qui mène à la perdition, et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite qui mène à la vie éternelle. C'est comme ça, ça peut ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Donc je conseille beaucoup à ceux qui ont du mal là-dessus de se procurer le livre du nombre des élus, du père Ricard Torrance, donc qui est un grand classique, qui est un livre relativement récent, c'est un livre des années 60, 65, c'est ça. Donc c'est un grand classique espagnol qui a été traduit par Arnaud de Lassus. Il a été réédité aux éditions Saint-Rémy, donc vous pouvez l'avoir. Et quand on. Justement, c'est des livres un livre extrêmement utile parce que il se contente de prendre les pères. De prendre les pères et les textes de l'Évangile. Même pour ceux qui disent, mais le bon Dieu va trop fort, il exagère. Bon. Eh bien, il suffit de voir un peu qu'est-ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet. Alors, ça laisse rêveur, je n'ai pas le temps de tout lire, mais par exemple, ici, il cite, pour ceux qui se plaignent du petit nombre relatif des élus enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y a plusieurs exemples qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, il y a l'exemple de Sodome et Gomorre, il n'y a que Lot qui est sauvé avec ses deux filles, il y a l'exemple de l'Arche de Noé, hein, où il n'y a que Noé, sa femme, ses trois enfants et leurs épouses, ça fait 8 personnes, hein, et ça fait pas beaucoup. Il y a un troisième exemple que je vais retrouver, après quand j'y penserai plus. Je ne l'ai pas noté, j'ai oublié, mais il y a un troisième exemple que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même donne, que l'Église a toujours donné. Là, je peux vous citer comme ça, à pêle-mêle, certaines des paroles de notre Seigneur, donc il ne faut pas dire, c'est les interprétations de l'Église, comme disent les modernistes, on n'a pas le droit de parler de ça, c'est contre la charité. Regardez ce que dit notre Seigneur. Il n'y a pas simplement ce texte-là, de Matthieu 7, 13 et 14, il y en a beaucoup d'autres. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on le coupe, on le met au feu. Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? L'homme, que peut-il donner en échange de son âme? Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le, jette-le au loin. Et si c'est ton œil qui te scandalise, arrache-le et jette-le au loin. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps sans avoir le pouvoir de tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans la gêne. Bon, puis il y a des tas d'autres exemples, hein. Le jugement dernier, les mauvais riches, etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Il y a d'autres textes là qui sont vraiment, vraiment importants parce que ça nous aide à comprendre ces choses-là parce que les objections sont toujours les mêmes. C'était les objections du temps du père Ricard Torrance. Lui, il prêchait en 65. Hein. Il est mort en 65. Il y a cette écoute aux années 65, 1965. Donc, il y a une époque où déjà ça commençait à s'écouler partout. Hein. Eh bien, Alors, faisait toujours trois objections. La première, c'est parler d'autre chose. Hein. Parler d'autre chose, parce que si vous parlez de ça, les églises vont se vider. Bon. Deuxième objection, rappeler la doctrine du petit nombre relatif des élus et contre l'espérance chrétienne. Vous péchez contre l'espérance en prêchant des choses comme ça. Troisième objection, c'est du rigorisme et du jansénisme. Et puis il y a d'autres objections hein, qui sont citées par le père Thorens. Il est terrible de prêcher la crainte servile, de prêcher l'amour. Bon. Mieux vaut, autre objection qu'on entend tout le temps, mieux vaut ne prêcher et enseigner que l'amour et non les vérités éternelles du péché et de l'enfer. Hein. Autre objection, cette doctrine est trop très étroite. Hein. C'est pousser les âmes au désespoir. Comment pouvez-vous dire, être sûr et pouvez-vous enseigner que quelqu'un puisse se damner pour un seul péché mortel? Ce serait l'échec de la rédemption. Ça, c'est tous les trucs des modernistes. Ils en parlent tout le temps. Vous voyez. Alors, je peux vous citer certains passages. Est-ce que j'ai noté ça, page 27, 28. Donc, on voit, je n'ai pas le temps de tout vous citer parce que ça serait beaucoup trop long. Mais quand on voit. Quand on voit les pères, et le père Ricard Thorens explique que les pères de l'Église sont unanimes sur le sujet. Tous, sans aucune exception, prêchent le petit nombre relatif des élus. Alors voilà, par exemple, je vous lis un passage ici du père Thorens. Prétendre que la doctrine traditionnelle du nombre des élus, grand lui-même et innombrable, mais petit relativement au nombre de ceux qui se damnent, est une doctrine qui découle du jansénisme fait sourire. D'abord parce que pendant plus de 1000 ans avant les jansénistes, elle était enseignée déjà dans l'Église avec saint Irénée, saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire le Grand et tous les pères. Depuis, tous les saints qui en ont traité sont unanimes sur la question du petit nombre relatif des élus. Les plus grands ennemis des jansénistes enseignèrent justement cette doctrine du petit nombre relatif des élus. C'est très intéressant de voir aussi que l'Église, pour lutter contre les jansénistes c'était ce que saint François de Sales appelait l'hérésie de glace. Donc pour lutter contre le jansénisme, quel est le moyen utilisé par l'Église? La dévotion au Sacré-Cœur. Hein. Dévotion au Sacré-Cœur, toutes ces grandes apparitions du Sacré-Cœur, dévotion au Sacré-Cœur, dévotion à Sainte Eucharistie, dévotion à notre Sainte Vierge Marie, pour bloquer justement ce jansénisme qui congelait les âmes, littéralement. Et donc il y a d'autres petites... Je vais citer d'autres textes pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas prêcher des choses comme ça, que c'est trop dur. Je vais vous citer certains passages. Là. Dans Saint Matthieu, par exemple, certains passages qu'on a déjà d'ailleurs vus. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Parce que précise notre Seigneur, tout arbre ne produisant pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il tient le van en main. Il va purifier son air et serrer son blé dans le silo. Et quant à la paille, il la brûlera dans un feu inextinguible. Les autres textes, j'étais déjà cité. Il y a d'autres textes, par exemple en Saint Matthieu, il y a des textes qu'on a déjà vus, 7, 13 et 14, mais il y a d'autres textes de Saint Matthieu. Ce n'est pas, on verra ça un peu plus loin, c'est verset 22-23. Ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui aura accompli la volonté de mon Père céleste. Ils seront nombreux à me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en votre nom? En votre nom, n'avons-nous pas expulsé les démons? En votre nom, n'avons-nous pas accompli quantité de prodiges? Et alors, je leur déclarerai hautement, jamais je ne vous ai connu. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. Je vous déclare, ils viendront, d'autres textes de Saint Matthieu, ils viendront en foule d'Orient et d'Occident, s'asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume des cieux. Quant aux fils du royaume, on les jettera dans les ténèbres extérieures, là seront les pleurs et les grincements de dents. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps sans avoir la puissance de tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans la gêne. Bon, je pourrais citer des textes comme ça pendant des heures. Hein. Un texte très important aussi, dont j'ai déjà cité, que j'ai cité en partie, mais je vais vous citer tout le texte, là, c'est Saint Matthieu 18, 6, 9, donc on le verra plus tard. Celui qui scandalise l'un de ses petits, qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui avoir une meule d'âne suspendue au cou et être précipité au fond de la mer. Malheur au monde pour ces scandales. Il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le, jette-le au loin. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil, c'est ton œil qui te scandalise, arrache-le, jette-le au loin. Mieux vaut pour toi entrer borne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la gêne. Gêne du feu. Alors, bon, il y a plein d'autres textes. Je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais je vous conseille beaucoup à ceux qui ont le temps, procurez-vous ce livre, celui qui est un grand classique, qu'on utilisait beaucoup avant pour la prédication des exercices. Moi, il m'arrive, le Père Barrière, il en lisait certains passages pour les lectures à table. On peut le faire aussi, il y a beaucoup de très bonnes choses. Moi, c'est un livre que je conseillerais beaucoup de lire pendant les retraites, au début de retraite, pendant la première partie de préparation aux confessions générales, parce que ça aide énormément. Donc, bon, j'ai pas le temps de tout vous citer, mais on voit très bien justement l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ concernant précisément le petit nombre relatif des élus. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas voir simplement certaines parties de la phrase. Le texte parle bien, le texte de l'Église parle bien du petit nombre relatif des élus. L'Église n'a jamais enseigné que ça, il faut faire très attention à ça, ne jamais dire le nombre des élus est tout petit. Ça, ça serait condamné par l'Église. Donc il faut enseigner le nombre des élus est très grand, sur toute l'histoire du monde, mais le nombre des élus est petit par rapport au nombre de ceux qui sont là. Donc on n'aurait pas le droit de dire le nombre des élus est petit. Alors, c'est pour ça que les gens qui nous disent mais vous empêchez la miséricorde du bon Dieu, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'on croit la miséricorde du bon Dieu, mais l'exemple typique aussi qu'on peut donner comme pour aider les gens à comprendre, c'est les deux larrons qui sont tous les deux tout proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui sauve et pas l'autre. Les 12 apôtres, ils ont tous entendu la même chose. Il y en a un qui s'est damné. Bon, alors il y a d'autres textes. Un texte aussi qui est très utile à méditer, c'est un texte du prophète Élie. Il y en a eu 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Baal, c'est un faux dieu. Eh bien, Élie déjà en parle. Bon, vous avez bien sûr l'histoire du déluge, Sodome et Gomorre. Il y a un troisième exemple que je ne retrouve plus là. Je ne sais plus ce que c'était. Donc, il faut pas changer cette doctrine. Et bien avoir le courage de rappeler ces vérités. Donc tous ceux qui ont des doutes là-dessus, je vous conseille beaucoup de livres du nombre des élus. Donc vous avez, c'est un livre qui se lit très vite, hein, ça fait quoi, 270 pages, mais il y a des tas de... Il part d'abord des objections, si vous voulez, entre autres que ça serait l'échec de la rédemption. Et ensuite il va aller chercher ce que dit la Sainte Écriture, d'abord l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, et ensuite tous les grands prédicateurs. Donc il recouvre une liste impressionnante des docteurs de l'Église et des grands saints. Ensuite le livre va couvrir aussi les textes du magistère de l'Église. Et ensuite il donne un exemple, tout un sermon magnifique de Saint Léonard de Port-Maurice. Et le témoignage dans les révélations privées. Il y a tellement les révélations privées, mais reconnues par l'Église. Ensuite, il y a des chapitres 10 et 11, c'est sur les confessions sacrilèges et les signes de prédestination. Donc, je vous conseille beaucoup aux gens qui ont un petit peu mal avec ça de lire. Donc, ça s'appelle Du nombre des élus de José Ricard Torrens, T-O-R-R-E-N-S. Donc, on passe à la page 14. Donc on peut utiliser aussi pour expliquer tout ça, pour synthétiser tout ça plus directement, le texte de saint Augustin qui est très connu. Deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste, Jérusalem céleste, et l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait au contraire, non, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la Jérusalem terrestre, la cité d'ici-bas. On peut changer certains mots. Moi, quand je prêche, souvent j'explique que, parce que les gens ont plus de facilité à comprendre avec ces mots-là. La Jérusalem céleste, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. La Jérusalem terrestre, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. C'est ça. Enfin, la formule maçonnique, c'est le refus d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie publique. Et ça, c'est un nom en France, surtout en France, on est vraiment à ce niveau-là, on est certainement un des pires pays au monde. C'est ce que les Français appellent l'athéisme. Et la France est une république athée, et une république, si vous voulez, qui refuse la présence de Dieu en privé. On veut bien du bon Dieu, du bon Dieu en privé, mais pas en public. Donc c'est laïcisme, c'est le mot qu'ils utilisent. La République laïque. La France est une République laïque. Souvent, les gens me disent ça, me disent, mais monsieur l'abbé, vous êtes toujours contre la République. C'est faux. Complètement faux. Moi, j'ai rien contre la République en tant que telle. L'Église n'a jamais condamné la République en tant que telle. Un des plus grands politiciens, c'était Garcia Moreno. Il était président de la République. Président de la République de l'Équateur, tué par les francs-maçons en 1875. C'était un grand héros, un grand saint. Il n'est pas canonisé par l'Église, mais il pourrait être canonisé. Hein. La République française est une république particulière, c'est pas comme les républiques italiennes ou les républiques suisses. La République française est une république qui, dans son essence même, depuis sa fondation même, faut oublier que la naissance, l'acte de naissance de la République française, c'est l'assassinat du roi légitime, Louis XVI. La République française, elle est laïque dans son essence. Qui dit laïcisme dit refus de Dieu dans la vie politique. Et la conséquence du laïcisme français, c'est la séparation totale entre l'Église et l'État. Donc, séparation totale entre l'Église et l'État, ben, ça veut dire que l'Église n'a plus rien à faire en matière politique, n'a plus rien à dire en matière politique. Et vous avez même parfois, c'est ça le drame, même parfois des fidèles de la tradition qui disent qu'il faut que l'Église et l'État soient séparés. Alors que l'Église enseigne, relisez, pour ceux qui ne croient pas, je vous conseille d'aller tout simplement chercher le syllabus de Pie IX. Le syllabus de Pie IX, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un grand texte de condamnation de toutes les grandes idées modernes par Pie IX en 1864. Et la proposition 55 dit expressément, proposition condamnée par l'Église, qui dit l'Église et l'État doivent être séparés, c'est condamné par l'Église. Donc il faut que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Hein. Alors, voyons un petit peu, expliquons un peu mieux avec les pères, donc page 14 du. Du polycopier. Donc, il faut bien comprendre, donc, dans l'esprit de notre Seigneur, c'est le texte de Matthieu chapitre 13 et 14, qui parle de voie, une voie étroite, une voie large. Donc, cette voie large, c'est la voie de l'orgueil. Hein. La voie de l'orgueil, les pères de l'Église font remarquer que justement l'orgueil est le symbole de cette voie large. L'orgueil, c'est l'homme qui s'enfle. Et au contraire, la voie étroite, c'est le symbole de l'humilité. Parce que l'humilité, nous fait rentrer dans la discrétion. La porte de la perdition, c'est le démon, donc. Et c'est par cette porte qu'on entre en enfer. Jésus qui, au contraire, est la porte de la vie, porte qui nous ouvre l'entrée du royaume des cieux. Ce qui fait donner au démon le nom de porte large, ce n'est ni l'étendue ni la grandeur de son pouvoir, mais le débordement de son orgueil, effréné, qui ne connaît point de borne. Donc les pères de l'Église font remarquer que la voie large, c'est la voie du démon, parce que c'est la voie de l'orgueil. Donc il n'y a pas de chemin plus court qui mène en enfer que l'orgueil. Il y a des textes magnifiques dans Saint Pidis, notamment dans la condamnation du Sillon, dans l'encyclique sur notre charge apostolique de 1910, condamnation de Marc Sanglier du Sillon français. Eh bien, il y a des textes magnifiques où justement le Saint Pidis montre très bien qu'il n'y a pas de chemin qui mène plus vite à l'enfer que l'orgueil. Donc, si le Christ nous est présenté comme la porte étroite, ce n'est pas que son pouvoir soit faible et resserré, mais parce que son humilité lui a inspiré de se raccourcir et de se renfermer dans les étroites limites du sein d'une Vierge, lui que le monde entier ne peut contenir. Donc, la porte étroite, c'est le symbole de l'incarnation. Donc, s'unir avec notre Seigneur Jésus-Christ qui se fait tout petit dans le sein de sa mère pour pouvoir aller au ciel. Donc, la voie de perdition, c'est l'iniquité, quelle qu'elle soit. Cette voie est appelée large parce qu'elle n'est pas contenue dans les sages limites de la règle et de la discipline, et que ceux qui prennent cette voie font profession de poursuivre tout ce qui a pour eux de l'attrait. Au contraire, tout acte de vertu est la voie qui conduit à la vie. On l'appelle étroite pour des raisons opposées à celles que nous venons de dire. Donc la porte étroite, disent les pères, qui est une entrée pour le ciel, le bonheur et la fête de la gloire céleste, représente la loi de Dieu qui mortifie et rectifie nos désirs. C'est l'obéissance, la continence, la mortification, la croix de chaque jour qui doit être portée. La porte large, au contraire, mène à la perdition et à la concupiscence, l'excès de liberté, la gourmandise, la luxure. Il y a donc un grand combat à mener, soit le chemin de vie qui est la croix, soit le chemin de la perdition qui est l'indulgence de la luxure de la chair, des yeux et de l'orgueil. Hein? Donc il y a deux chemins, la conclusion, un chemin de vie, un chemin de mort. Le chemin de vie, c'est la République laïque. Le chemin de mort, c'est la République laïque d'aujourd'hui. Le chemin de vie, ben, c'est tout simplement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Moyen-Âge chrétien. Alors je ne dis pas qu'au Moyen-Âge chrétien, il n'y a pas de gens qui se damnaient, mais certainement qu'il était beaucoup plus facile de faire son salut au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des possibilités de se sauver beaucoup plus facile, ne serait-ce que parce que dans les hôpitaux des maladeries, les hôtels dieux du Moyen-Âge, ben, c'était les religieuses qui faisaient le rôle d'infirmière. Et les religieuses ont fait un travail énorme dans toute l'histoire de l'humanité pour sauver des âmes au dernier moment. Il y avait des prêtres partout qui passaient régulièrement pour voir ces malades et les aider à se convertir avant de mourir. Donc vraiment, au Moyen-Âge chrétien, je dirais, surtout partout, surtout en France, au Moyen-Âge chrétien, imaginez au XIIIe siècle, au temps de la mort de saint Thomas, 1270, il est mort en 1274, pour se perdre en France au Moyen-Âge, il faut vraiment le faire exprès. Hein. Il fallait vraiment le faire exprès parce qu'il y avait vraiment tout pour se sauver. D'abord, pour commencer, il faut bien que les gens le comprennent aussi, imaginez un jeune de 20 ans du Moyen-Âge, il avait 25 millions de fois moins de tentations qu'un jeune de 20 ans d'aujourd'hui, c'est absolument évident. Donc le bon Dieu, il faut bien qu'il en tienne compte aussi. Hein, mais comme il y avait déjà énormément moins de tentations au Moyen-Âge, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces cochonneries, toutes les cochonneries qu'on peut avoir avec Internet, et donc il était beaucoup plus facile de se sauver au Moyen-Âge, d'abord parce qu'il y avait beaucoup moins de tentations, et d'autre part parce que à ce moment-là, il y avait l'union entre l'Église et l'État. Donc l'État favorisait l'Église pour justement permettre aux prêtres catholiques de faire leur travail. Et donc la plupart, je veux bien enseigner, beaucoup de saints disent ça, qu'au Moyen-Âge, la plupart des gens sauvés. Ça c'est certainement vrai. Au Moyen-Âge, la plupart des gens sauvés à cause du fait qu'il y avait l'union entre l'Église et l'État. Et c'est bien pour ça que le démon qui a soufflé sur les braises de la Révolution de 1789, la première chose qu'ils ont fait, c'est séparation de l'Église et de l'État, parce que le démon avait compris qu'une union entre l'Église et l'État, les hommes se sauvent. Donc il fallait séparer l'Église et l'État, et c'est ce qui a été fait. Donc la première chose qu'ils ont fait en 1789, c'était de couper le cou à tout le clergé. Tous les évêques, tous les prêtres, tous les religieux et religieuses qu'ils ont trouvés, c'était ça. Mais la première chose, leur couper le cou, et deuxièmement, enlever à l'Église l'éducation. Il a enlevé deux choses à l'Église, l'éducation d'abord, puis les soins médicaux. Et c'est pour ça qu'il y a une telle catastrophe, juste après la Révolution française, une telle catastrophe sur plan en France, sur le plan médical et sur le plan de l'enseignement, parce qu'ils ont coupé le cou à tous les religieux, à tous les prêtres, à tous les évêques, et ceux qui s'en sont tirés ont dû se cacher pour ne pas être assassinés, ou ils sont exilés. Et à ce moment-là, la Révolution a commencé à réaliser qu'il n'y a plus une seule école qui est ouverte, qu'il n'y a plus d'université, plus rien du tout, parce que tout ça était au soin de l'Église. C'était l'Église qui était au soin de tout ça, plus exactement. Et donc, d'un seul coup, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de maladrerie, il n'y a plus d'hôtel de Dieu, il n'y a plus rien, parce que l'Église a été mise dehors. Alors, catastrophe, ils ont essayé de remplacer ça, mais il n'y a rien qui remplace la charité chrétienne. Hein. Rien qui remplace la charité chrétienne, et on le voit très bien. Très bien, par exemple, même dans les hôpitaux, une religieuse qui fait son travail de religieuse, je veux dire une infirmière qui fait son travail d'infirmière avec un esprit de consécration, un esprit de consécration religieuse, il y en a encore quelques-unes, eh bien, elle peut faire un bien énorme. Par contre, une infirmière qui fait les 3-8 littéralement, et qui considère qu'à partir du moment où elle n'est pas en service, elle n'a plus rien à faire, eh bien, les hommes se damnent, c'est ce que voulaient les démons. La plupart des gens se damnent aujourd'hui à cause de ça. Alors là, il y a des textes magnifiques, encore des pères, au milieu de la page 14. le chemin de vie. Le chemin de vie, donc, c'est le chemin de la continence. Donc, il y a deux chemins, chemin de la mort, chemin de vie. Chemin de la mort, c'est la voie large qui mène à la perdition. Chemin de vie, c'est la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Donc, le chemin de vie, c'est la continence, l'esprit de pauvreté et d'humilité. C'est le martyr, soit de sang, soit de volonté, soit de pénitence. Oui. C'est un beau texte, un martyr de sang, de volonté, de pénitence. C'est-à-dire que les pères vont jusqu'à dire que on peut devenir martyr, pas simplement par l'effusion de notre sang, mais aussi par la volonté et la pénitence. Il y a quelqu'un qui volontairement se coupe des occasions de péché, fait pénitence pour ne pas tomber dans les occasions de péché, eh bien c'est un martyr de la volonté. C'est la voie dans laquelle le Christ nous a précédés, et les premiers chrétiens et ceux qui l'ont suivi volontairement y ont rencontré le martyr. Quand la persécution a cessé, le martyr est devenu volontaire par le choix d'une vie austère dans les monastères, les déserts et les grottes. C'est-à-dire avant la fin de la persécution. La fin de la persécution en Europe, c'est 313, avec les 10 000 ans, la conversion de l'empereur Constantin. Eh bien, le martyr est devenu, n'était plus possible, le martyr physique n'était plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de persécution, au moins en Europe, au moins en Italie et en France. C'est la fin des persécutions. Et donc, ce martyr de sang a été remplacé par un martyr de volonté. Martyr de volonté, bon, c'est la vie de pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc, on voit très bien, historiquement parlant, à la fin des grandes persécutions, donc, qui ont duré depuis 67, la première avec Néron, jusqu'à la dernière avec Dioclétien, qui s'est terminée en 313, avec la victoire de Constantin sur Maxence, et l'empereur Maxence, eh bien, à ce moment-là, le martyr n'étant plus possible, c'était le début du développement extraordinaire de la vie religieuse. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver tous ces grands fondateurs de couvents de pénitence, comme saint Antoine du Désert, avec les premières règles de saint Basile, les règles de saint Paco, les premières règles religieuses. Et d'un seul coup, à la fin des persécutions, on avait presque l'impression que les catholiques de l'époque se disaient ben, plus de persécution, comment on fait pour aller au ciel? On ne peut plus aller au ciel. Avant, on avait des chances d'aller au ciel facilement. Le ciel était très bon marché parce qu'il suffit de se faire prendre par la police et qu'on était mangé par les lions. Alors, on passait directement l'estomac du lion au ciel. C'était quand même pratique. C'était un raccourci pas mal. Mais maintenant qu'il n'y a plus de persécution, on fait quoi? Et à ce moment-là, on voit très bien que ça a été le début d'un nombre incalculable de gens qui ont lâché les grandes villes pour partir dans les déserts. Partir dans les déserts et faire des pénitences invraisemblables dans les déserts. Donc c'est l'époque en même temps, la paix qui a suivi la conversion de Constantin, c'était très utile aussi, a été utilisée par les grands-pères de l'Église, notamment c'est l'époque de Saint Jérôme, c'est l'époque de Saint Augustin, de Saint Ambroise, de Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, etc. Tous ces les pères de l'Église qui, en paix maintenant, parce qu'il n'y a plus de persécution, ont pu sortir dehors et commencer à prêcher. Ils ont prêché l'Évangile et à ce moment-là, on dit que les déserts se sont remplis de pénitents, oui, de gens qui allaient faire pénitence dans les déserts. Voilà le troisième. Sachez bien que j'avais un troisième point que j'avais oublié. En parlant du petit nombre des élus, il y a trois exemples. C'est là justement, j'avais oublié le troisième point. Donc je vais parler du déluge. Donc c'est la page 14 au milieu. Du déluge, donc Noé qui fut sauvé avec sept âmes. L'âme de sa femme, ses trois fils et leurs épouses respectives. Donc tous les autres furent engloutis à cause de leurs péchés. Donc ça c'est le premier symbole du petit nombre relatif des élus. Attention, l'Église enseigne, ça c'est historique, qu'il n'y a eu que 8 âmes sauvées, enfin 8 personnes sauvées physiquement dans l'arche. L'Église n'a jamais enseigné que tous ceux qui ont été noyés par le déluge sont en enfer. Faire attention parce que c'est une erreur qu'on entend régulièrement. Vous voulez donc dire, monsieur l'abbé, qu'il n'y a que 8 personnes qui sont ceux qui ont sauvé leurs âmes sur les millions et millions de personnes qui habitent dans le monde? Non, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église. Parce qu'il faut espérer quand même, c'est ce que disent les pères de l'Église qui en ont parlé avec raison, il faut espérer que quand les gens commençaient à voir les écluses du ciel ouvertes et le déluge commençait à arriver, et que tout le monde commençait à mourir noyé, qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en eux-mêmes, qui ont demandé pardon au bon Dieu, qui ont fait pénitence à ce moment-là, et qui ont fait leur mort en réparation pour tous leurs péchés. Et donc l'Église n'a jamais enseigné que tous ceux qui n'étaient pas dans la barque ont été perdus spirituellement parlant. Donc il peut y avoir un nombre important parmi les gens qui sont noyés dans le déluge qui sont sauvés. D'accord? Mais c'est quand même un symbole du petit nombre relatif des élus. Deuxième exemple, c'est Lot, qui se sauva de la destruction de Sodome avec ses deux filles, alors que toutes les autres brûlaient à cause de leurs mauvais désirs. Car le monde est comme Sodome, enflammé par la luxure et les passions, ainsi la plupart des damnés le sont à cause de la luxure. Là, c'est très clair, on voit très bien dans le texte de la Genèse que le péché de Sodome et Gomorre, c'était le péché de Sodomie, d'où le nom de Sodomie vient justement de la catastrophe de Sodome. Et là, Dieu n'a sauvé que trois personnes. Bon, encore une fois, l'Église ne dit pas que tous les autres habitants sont en enfer. Est-ce qu'il faut espérer la miséricorde que le bon Dieu, par miséricorde, a peut-être sauvé d'autres personnes, peut-être, qui ont, en voyant le déluge de feu, peut-être converti au dernier moment. Cependant, sur Sodome et Gomorre, c'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué parce que, pour comprendre la gravité du châtiment de Sodome et Gomorre, il faut comprendre que là, ce n'est pas des péchés généraux contre les commandements de Dieu, c'est des péchés contre la nature. Et ces péchés donc beaucoup plus graves. Vous savez que pour expliquer ça, il faut passer par l'histoire d'Abraham, qui est sur le pas de sa tente, le bord de sa tente, qui voit passer trois hommes. L'Église a toujours enseigné que c'était trois anges, donc trois anges qui avaient forme humaine, qui passent devant la tente d'Abraham, et Abraham a tout de suite pratiqué l'hospitalité qui était sacrée pour cette époque. Et donc il donne à manger, il nourrit, il abreuve ces trois hommes, qui à ce moment-là vont lui révéler qu'ils sont envoyés par Dieu. Ils ne disent pas qu'ils sont des anges dans le texte, mais ils disent qu'ils sont envoyés par Dieu pour détruire les deux cités de Sodome et Gomorre. Et Saint Abraham va tout faire pour essayer de sauver quelques-uns en disant mais si vous trouvez 50 personnes dans cette ville, dans ces deux villes qui sont en état de grâce, c'est ce qu'il a voulu dire, est-ce que vous détruirez la ville? Et les anges disent non, si on trouve 50 personnes, les deux villes ne seront pas détruites. Sous-entendu, 50 personnes en état de grâce. Et c'est très intéressant parce qu'Abraham va descendre le nombre. Donc il va dire, si vous trouvez que 40, et puis 20, puis s'arrête à 10, si vous trouvez 10 personnes, dans toutes les villes de Sodome et Gomorre, donc dans une population énorme, est-ce que si vous trouvez 10 personnes en état de grâce, que vous détruirez la ville? Et la réponse des anges est non, nous ne détruirons pas les villes. Ça veut donc dire que quelqu'un qui vit en état de grâce dans une ville, c'est un paratonnerre pour les autres. Et le problème, c'est que les trois anges n'ont pas trouvé 10 personnes en état de grâce. La tradition dit qu'il y avait un état de grâce là-dedans, il n'y avait que Lot et ses deux filles, c'est tout. Et donc, les deux cités de Sodome et Gomorre ont été détruites. Alors, les pères de l'Église, c'est très intéressant, ils se posent la question, ils disent, mais pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il s'est arrêté à 10? Parce que ça marchait bien son truc, pourquoi il n'avait pas continué? Mais si avec 8, 2, peut-être il s'était arrêté 2, 3, ou même 1, les cités n'auraient pas été détruites. Et les pères de l'Église ont tous remarqué 10 symboles des commandements. Donc le minimum du minimum du minimum pour être sauvé, c'est le respect des commandements. Donc il ne peut pas descendre en dessous. Il y a des explications magnifiques dans Don Juan Léon là-dessus. Alors le troisième exemple, c'est celui que je recherchais, que j'avais oublié, c'est la terre promise. Ça, c'est un exemple très fort aussi. Terre promise, alors là, attention, donc, autant pour le deuxième exemple, trois exemples, Lot, Noé et la terre promise. Pour l'exemple de Noé et des déluges, l'Église n'a jamais enseigné que tous ceux qui ont été noyés sont en enfer. Bon. Pour Lot et la destruction de Sodome et Gomorre, c'est beaucoup plus complexe parce que la plupart, l'Église enseigne, c'est les textes du livre de la Genèse, qui parle donc simplement de Lot et de ses deux filles qui vont être sauvées. Alors, est-ce que tous les autres sont en enfer? Je ne pense pas qu'il y ait d'enseignement ex cathedra sur le sujet, mais il est clair dans le livre de la Genèse que la destruction par le feu et le soufre des deux villes de Sodome et Gomorre a été un châtiment du péché de Sodomie, donc du péché contre nature. Alors, pour le troisième exemple, c'est la promise. La terre promise, donc notre Seigneur Jésus-Christ fait sortir d'Égypte le peuple hébreu, qui vont pérégriner pendant 40 ans dans le désert à cause de leur manque de foi, le fait qu'ils étaient toujours en train de se révolter contre Dieu, et ils sont menés par Moïse, qui est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, attention, et bien Moïse lui-même ne rentrera pas en terre promise. Et le texte sacré explique qu'il n'y a que deux personnes sur cette immense multitude, rappelle plus combien ils étaient, mais plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n'y a que deux personnes, Caleb et Josué, qui vont rentrer en terre promise. Ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont en enfer. Attention, encore une fois, et là c'est certain, parce que parmi ces autres qui ne vont pas aller en terre promise, il y a Moïse. Et Moïse est canonisé par l'Église. Hein? Vous avez des grands, certainement des tas de gens qui sont morts en état de grâce, mais qui, en termes globés dans le châtiment général, bon Dieu peut utiliser un châtiment tel que le déluge d'eau, ou un châtiment de ne pas rentrer en terre promise pour sauver des âmes. D'accord ? Voilà l'exemple. On va chercher le nom, il est à 600 000. Le troisième exemple est celui de l'entrée dans la terre promise, qui est le symbole du paradis. Des 600 000 Israélites, seuls deux y entrèrent, Caleb et Josué. Tout ceci est démontré par la parole du Christ, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Il nous faut donc vivre avec les pauvres pour être jugés dignes d'être parmi le petit nombre qui sera sauvé. Et donc c'est les trois exemples que donnent les pères, donc je répète, Lot. Donc la destruction de Sodome et Gomorre, il y a trois personnes qui sur ces deux villes, trois personnes seulement qui semblaient être en état de grâce, les autres sont damnés, vraisemblablement. Le déluge, Noé seul est sauvé avec sept autres personnes, donc huit personnes dans l'arche, ce qui ne veut pas dire encore une fois que tous les autres sont damnés, mais il n'y a que huit personnes dans l'arche. Et enfin, troisième exemple, la terre promise, Caleb et Josué seuls, qui vont entrer dans la terre promise, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont damnés. Donc il faut bien faire les distinctions. C'est vrai que c'est des sujets assez délicats. Encore une fois, Monseigneur Lefebvre avait raison. Il nous disait, faites attention quand vous prêchez, ceux qui prêchaient de façon dangereuse le petit nombre relatif des élus. Parce qu'il y en a qui parlent du petit nombre des élus. Et ça, c'est dangereux comme phrase. Il ne faut pas prêcher le petit nombre des élus. Il faut prêcher le petit nombre relatif des élus. Ce n'est pas pareil du tout. Parce que le petit nombre relatif des élus laisse à croire et fait penser, fait comprendre que le nombre des personnes qui se sont sauvées est très grand. Mais que le nombre des personnes qui se donnent est plus grand. Vous voyez ? Donc il ne faut pas dire que l'Église enseigne le petit nombre des élus. Ça, c'est faux. Mais le petit nombre relatif des élus. C'est le temps, donc on va arrêter là. Oui, il faut relire tous ces textes, c'est des textes extrêmement, extrêmement forts qui nous aident justement à comprendre tout simplement la gravité du péché et les conséquences du péché. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez pour nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.